Deutsche Welle Magazine Santé.
La toxicomanie et son impact sur la santé physique et psychologique, c'est le sujet que nous abordons cette semaine dans le magazine Santé. Nous irons au Sénégal à la rencontre de personnes dépendantes de la drogue qui, après avoir été prises en charge, tentent de se réinsérer dans la société. Et puis en seconde partie d'émission, il sera question toujours de prise en charge, mais cette fois de personnes handicapées dans les zones de crise. Bonjour à tous, Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Marijuana, héroïne, cocaïne, ce sont les drogues couramment consommées au Sénégal. Les usagers appartiennent à toutes les couches sociales et les raisons qui les poussent à en consommer sont variées. Rejet, précarité et pauvreté sont le quotidien de ces consommateurs. Certains sont exposés à des maladies, d'autres commettent des délits pour pouvoir s'acheter leur dose. En 2016, ils étaient près d'un millier à être suivis dans un centre de désintoxication. Aujourd'hui, les patients suivis se remettent et s'insèrent dans la société et disent désormais non à la drogue. Mamadou Lamine Ba, notre correspondant à Dakar, est allé à la rencontre de certains d'entre eux.
Au Sénégal, plusieurs types de drogues sont consommées. Docteur Idrissa Ba, psychiatre addictologue, est le coordonnateur du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar.
Le type de drogue qui est plus consommé au Sénégal, pour l'instant, c'est le cannabis, communément appelé chanvre indien, qui est largement utilisé au niveau de la population juvénile. Mais nous retrouvons de plus en plus d'autres types de drogues, notamment des drogues injectables, qui sont de plus en plus consommées aussi.
Parmi les usagers, on retrouve toutes les catégories socio-professionnelles.
Autant des jeunes, des adultes, autant des femmes, des hommes, mais aussi autant de personnes venant des catégories, en tout cas favorisées ou défavorisées. Ça montre un peu la complexité du phénomène de l'addiction tel que ça se passe au Sénégal ou ailleurs dans le monde.
La société sénégalaise rejette l'usage de la drogue et de l'alcool. Résultat, famille, amis et collègues de travail tournent le dos à certains usagers. Parmi eux, Ousmane Gueye, ancien chef de service adjoint d'une société.
Je n'ai pas seulement perdu l'emploi, mais j'ai perdu également la femme que j'aimais, avec qui j'avais deux enfants. Et ma famille m'avait plus ou moins rejeté, parce qu'ils se disaient que, en fait, ce que je faisais, je n'en faisais que ma tête.
Avec l'ouverture du centre, certains ont retrouvé un asile. Les statistiques sont variées, selon le docteur Idrissa Ba.
En 2016, nous avons globalement reçu 800 patients. Sont suivis en ce moment au niveau du centre, autant pour des problèmes d'alcool, des problèmes de cannabis, des problèmes liés à la consommation de drogues injectables, notamment l'héroïne, la cocaïne. Mais si on prend les drogues injectables, la population représente 315, avec 9% de femmes.
Mais avant d'arriver au centre, certains sont dans une situation fragile. Ousmane était devenu un sans-domicile fixe à Dakar.
J'ai erré dans les rues de la capitale, j'ai escorté les voitures en panne, les arrêts de bus, voilà, jusqu'à être un consommateur de drogue précaire et très vulnérable.
D'autres se retrouvent dans une extrême pauvreté. Mohamed Marega est infirmier au centre.
Ils luttent pour se maintenir, quoi. Ils luttent vraiment pour assurer même leur consommation. Financièrement, vraiment, c'est des gens, même après leur consultation, ils sont obligés de nous demander des pièces de 100 francs, 200. Et même quand on leur dit de venir demain, ils se disent, ah, vraiment, je ne suis pas sûr de venir parce que je n'ai même pas le transport pour rentrer chez moi. C'est dans ces états-là qu'on les reçoit.
Autre conséquence de l'usage de la drogue, la contraction de maladies mortelles. Marianne Ba, ex-usagère, nous les cite.
Le VIH, la tuberculose, les VHC.
À un moment, Ousmane reconnaît avoir commis des actes illégaux.
Vous savez, l'usage de drogue, c'est toujours lié à la criminalité.
Ouvert en janvier 2015, le centre a libéré beaucoup d'usagers des servitudes de la drogue et de l'alcool. Marianne Ba est l'une d'eux. Aujourd'hui, elle est médiatrice. Elle va au contact des consommateurs, objectif, les persuader de sortir du milieu. Mais auparavant, il faut les rassurer, c'est ce à quoi Mohamed Marega travaille.
Quand on leur dit qu'on va leur donner la méthadone, c'est un peu une lueur d'espoir. Parce qu'ils se disent, bon, je n'aurai plus à courir derrière de l'argent pour acheter pour prendre ma dose, puisque j'ai réussi la méthadone.
Aujourd'hui, Ousmane a retrouvé du travail et s'est remarié. Il a retrouvé également la sagesse.
Lorsqu'on goûte à la drogue, on est toujours loin d'imaginer qu'on vient de franchir le seuil de ce qui va devenir un véritable enfer pour la vie.
Pour éviter cet enfer, Marianne a un seul message à la jeunesse.
Non à la drogue.
Le centre a récemment organisé une semaine de campagne destinée aux jeunes. Objectif, les sensibiliser sur les risques et effets néfastes de la drogue et de l'alcool. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Sur le continent africain, la toxicomanie reste un problème de santé publique majeur dans des pays comme l'Algérie, par exemple. Rien que pour l'année 2016, quelques 600 000 toxicomanes ont été recensés, ce qui a poussé les autorités sanitaires à lancer un appel à la vigilance et à la lutte contre le fléau de la drogue. Si les personnes qui sont dépendantes de la drogue ont souvent besoin d'aide pour s'en sortir, ceux dont nous allons parler à présent ont également besoin d'appui car non seulement ils vivent dans des zones jugées sensibles, mais souffrent également d'un handicap.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Comment accéder au site de distribution de nourriture, au point d'eau, aux toilettes, dans un camp de réfugiés quand on est en fauteuil roulant ou qu'on se déplace avec des béquilles ? Pour les personnes handicapées, survivre et se débrouiller au quotidien dans une zone de crise relève de l'espoir. Thomas Calvaux est responsable de l'équipe des experts techniques pour les situations d'urgence à Handicap International. Il nous parle des difficultés des personnes handicapées dans les situations d'urgence.
Elles font face à des barrières dans la vie quotidienne et puis aussi face à une forme de discrimination ou à un regard qui peut être excluant de la part de la société. Alors tous ces facteurs-là, dans les situations de crise, se retrouvent un petit peu aggravés. D'une part parce que l'environnement peut être détruit, leur environnement de vie, ils peuvent être amenés à se déplacer de manière forcée. Ils peuvent perdre aussi leur environnement social immédiat, c'est-à-dire la famille, les proches, les aidants, des gens qui connaissent bien leur situation, qui savent comment les aider. Et puis bien sûr, ils font face aux mêmes défis que les autres, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, la réponse à leurs besoins essentiels, leurs besoins de base, donc se nourrir, se vêtir, se protéger, s'abriter. Mais cela de manière aggravée parce que ce sont souvent des personnes qui sont moins informées, qui ne peuvent pas se déplacer, donc qui sont un petit peu de fait exclues de la réponse qui est proposée par les acteurs humanitaires.
Et justement, dans quelle mesure les personnes souffrant de handicap sont prises en compte quand il s'agit de répondre à une urgence humanitaire ? Est-ce qu'il y a par exemple un dispositif qui est mis en place ou pas ?
Bien sûr, il y a des recommandations, des normes dans l'action humanitaire qui visent à faire en sorte que on puisse inclure les personnes vulnérables, exclues, et donc en particulier les personnes handicapées. Il y a aussi une perception qui continue d'exister chez beaucoup d'opérateurs humanitaires, qu'il faut avoir une expertise spécifique, qu'il faut être très très bien formé, qu'il faut que ce sont des programmes coûteux, que ce sont des programmes trop difficiles à mettre en œuvre, qui touchent un trop petit nombre de personnes, des perceptions qui sont fausses parce que avec quelques ajustements très simples, s'ils sont faits vraiment au début de l'élaboration des projets de réponse, peuvent être très bien faits par tout le monde, peuvent être très efficaces et permettre déjà d'inclure un beaucoup plus grand nombre de personnes, y compris de personnes vulnérables. Et c'est là, je pense, que nous, on intervient et qu'à la fois, on va aider les acteurs de la réponse à être plus inclusifs, plus attentifs à ces personnes-là, et à la fois, nous, on va pouvoir développer des actions qui sont plus spécifiques.
Et concrètement, quelles sont ces actions?
C'est des installations qui visent à apporter l'eau, l'hygiène, qui vont être accessibles et adaptées aussi. Des aménagements qu'on va faire, par exemple, dans les distributions. C'est des dispositifs d'accès à différents services généralistes, comme des services de santé, les services d'éducation en urgence, qu'on va adapter aussi de manière à ce que ces personnes puissent y accéder. Puis c'est aussi certaines réponses un peu plus spécifiques, qui sont des métiers, des cœurs de métiers chez Handicap International, comme par exemple la santé, la réadaptation, la santé mentale également.
Alors, Handicap International attire l'attention depuis un certain nombre de temps déjà sur l'importance même d'intégrer la question du handicap dans l'organisation pratique de l'aide humanitaire. Est-ce que depuis, oui. Est-ce qu'il y a eu des avancées au niveau des acteurs humanitaires ?
Oui, il y a eu des avancées assez significatives sur un plan, on va dire, légal, sur un plan de normes, des recommandations. Donc la Convention pour les droits des personnes handicapées a été un moment assez décisif, puisqu'elle comporte certains articles qui sont spécifiques aux situations d'urgence et au fait qu'il faut porter une attention particulière, s'engager à prendre en charge aussi, inclure les personnes handicapées dans les réponses d'urgence, qui s'est concrétisée aussi par l'adoption de certaines normes humanitaires qui permettent d'être plus inclusives dans l'aide humanitaire. Certains acteurs s'y sensibilisent bien, d'autres un petit peu moins bien. Donc plus personne en fait ne nie la pertinence et la nécessité de prendre en compte les personnes handicapées. Le fait qu'effectivement ça puisse se réaliser sur le terrain pose encore problème dans certaines crises, bien sûr.
Oui, justement, à propos des crises, est-ce qu'il y a des zones où le besoin se fait plus ressentir que d'autres ?
Les conséquences de crise, par exemple suite à des tremblements de terre, où la thématique du handicap est fortement mise en avant. Hein. Il y a beaucoup de personnes blessées, il y a beaucoup d'équipes médicales, donc notre rôle est évident dans le fait d'assurer une continuité de soins, dans le processus de réadaptation, c'est littéralement d'accompagner les personnes qui ont pu être blessées dans le fait de pouvoir guérir ou compenser un petit peu différentes incapacités qu'ils ont pu avoir, et puis tout le processus de les réaccompagner à revivre à nouveau dans leur communauté. D'autres crises sont un peu plus difficiles à appréhender, donc on va parler par exemple des crises chroniques ou complexes, par exemple les situations de conflit, donc qui sont aussi des situations qui créent du handicap, pas uniquement à travers les conséquences directes de la guerre, mais aussi par le fait que l'accès à différents services essentiels n'est plus assuré, donc à la santé, à la nourriture, qui va aussi aggraver beaucoup de situations existantes, comme par exemple des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes âgées également. Donc c'est aussi plus insidieux dans ce genre de situation. C'est vrai qu'aussi plus la crise se prolonge, plus la crise s'étend, plus il faut rappeler de manière régulière l'attention nécessaire qu'il faut porter aux populations vulnérables et aux personnes handicapées.
C'est avec ces explications de Thomas Calvo, responsable de l'équipe des experts techniques pour les situations d'urgence à Handicap International, que s'achève ce magazine. Merci pour l'écoute. Hey, when you had a shake, we smile at the storm, yeah, man. Life out on this road, it might be rugged. A job would never send you there from you, not ready, no. Listen to his voice and hold on steady. We're moving on and on. After a storm, there must be a calm. You should have never do resign. Remember, said your love already there before you born. His love is so pure and divine. Oh, yeah.